Et bien gloire au Seigneur.
Amen.
Ah, la fête de Noël est toute proche. Hein.
Je crois aussi encore.
On pense au message de l'ange. Hein. Je vous annonce une bonne nouvelle qui aura pour tout le peuple, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On pense à la multitude de l'armée céleste. Oh là là, ça devait être impressionnant, non? Qui s'écriait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Paix sur la terre.
Amen.
Amen. Combien nous pouvons encore partager ce sentiment-là dans les temps que nous vivons. Alors bien sûr, pour certains, Noël, ce sera prétexte à beaucoup d'excès, ouais. La fête à vécu soit gargantua, je ne sais pas, ça dépend. Les deux à la fois, peut-être, pour certains, beaucoup de gens essaient de se réjouir. Il y a une certaine joie à Noël qu'on retrouve, bien sûr. Mais ils ignorent, bien sûr, la vraie raison de la venue du Seigneur sur cette terre. Ils ignorent, bien sûr, la dimension de la mission de Christ ici-bas. D'autres passeront la fête tout seul. Hein. Il y a des gens qui se consolent. Alors quand on a la possibilité d'inviter quelqu'un, c'est une joie aussi pour nous. C'est une joie pour lui, mais c'est aussi quelquefois une occasion de témoignage quand c'est quelqu'un, bien sûr, qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein, c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous pourrions peut-être commencer par nous poser une question. Que s'est-il passé dans le ciel pour que Jésus puisse naître un jour à Bethléem? C'est quand même une question à se poser, comment ça se fait que le Seigneur en soit arrivé à naître de cette manière à Bethléem. La Bible, qui est la parole de Dieu, elle nous révèle, elle, en quelque sorte, elle lève le voile sur ce qui s'est passé dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a eu une résolution, il y a eu une prise de décision concernant la venue de Jésus. Alors, c'est pas, venez avec moi, je vous emmène pour voir ce qui s'est passé dans le ciel un jour. Hein? Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Eh bien, on va dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime, il abolit en quelque sorte, ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'est-à-dire les sacrifices, les offrandes, pour établir la seconde, le sacrifice de sa vie, son propre sacrifice. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen.
Amen.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen.
Amen.
Alors la parole de Dieu nous révèle bien sûr beaucoup de choses. D'abord que malgré la révolte, la déchéance de la créature, de sa créature à cause du péché, Dieu dans son amour n'a pas abdiqué. Il a toujours voulu offrir le salut à chacun par pure grâce. Un salut gratuit, il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il change de conduite et qu'il vive, nous dit le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Elle nous révèle ensuite que Dieu a décidé de tout faire pour offrir le pardon et le salut jusqu'à donner ce qu'il avait de meilleur, son Fils. Elle nous révèle que le sang des animaux, bien sûr, à l'époque, ne faisait que couvrir les péchés, mais ne les effaçait pas, ne les ôtait pas. Que la loi donnée à Israël n'était qu'une étape pour l'accomplissement de sa volonté, une étape pour nous conduire à Christ, pour nous conduire à nous jeter en quelque sorte dans les bras de Christ. Puisque cette loi, nous étions, la chair nous rendait incapables de la vivre à la perfection, comme Dieu le demandait, bien sûr. Or, notre seul refuge, c'était Jésus-Christ pour recevoir le pardon et la vie. Alors la parole de Dieu nous révèle que les prophètes de l'Ancienne Alliance, poussés par le Saint-Esprit, avaient annoncé, bien sûr, le plan divin. Enfin, ce texte nous révèle la motivation, on pourrait dire l'abnégation du Fils de Dieu. En ce qui concerne sa venue sur la terre, il avait le désir suprême, d'offrir sa vie, mais d'accomplir, on le rêve bien, d'accomplir la volonté du Père. Et ça, c'est important, bien sûr. Mais quel merveilleux exemple que celui du Seigneur Jésus. Christ est vraiment notre modèle merveilleux, parfait. C'est un exemple parfait. C'est vrai qu'à l'amour, quelle patience extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire, la patience du Seigneur. Parce que quand même, quand on réalise bien, le Fils de Dieu, dans la gloire, il entendait les louanges. C'est merveilleux, quoi. Un jour, on les entendra. Un jour, on les entendra, mes frères et sœurs. Amen.
Amen.
C'est quelque chose de merveilleux qui est certainement pas facile à traduire avec des mots. Hein. Il vient sur cette terre pour entendre les blasphèmes, les moqueries des pécheurs, pour être humilié, pour être frappé, pour être mis en croix. Il se dépouille de sa gloire, qui était lui qui était dans les cieux d'une beauté parfaite. Ésaïe a pu prophétiser, passage que vous connaissez. Mais je vous dis que des choses que vous connaissez, je m'en doute. Hein. Mais là, les textes que je vous cite peuvent que vous faire du bien quand même, parce que c'est la parole de Dieu. Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, vous connaissez ce passage, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quel abaissement, vous vous rendez compte? Quel renoncement, quelle humilité! En Christ, Dieu est là, tout petit, dans une mangeoire pour les bêtes. Est-ce que nous réalisions bien cette dimension d'abaissement? Il est au rang d'un SDF, sans domicile fixe. Plus tard, il dira d'ailleurs, dans Luc 9, 58, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Je sais pas, j'ai pas vu le mot étable, d'ailleurs, dans le texte biblique, on en parle souvent, mais il n'y est pas. Il nous est parlé de la crèche. N'allons pas plus loin. Il ne faut jamais aller plus loin que la parole de Dieu, se contenter de ce qu'elle dit. Alors Jésus, bien sûr, déjà à l'âge de 12 ans, vous savez, il avait à cœur de s'occuper des affaires de son père, de faire sa volonté. Il dira pendant son ministère terrestre, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et pendant son ministère, il vivra dans une intime, une étroite communion avec le Père, afin de pouvoir justement accomplir sa volonté. Jean 5, 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il a parfaitement accompli le plan divin, il a fait le bien partout où il est passé, il a prêché l'Évangile, nourri des foules, guéri des malades, ressuscité des morts, chassé des démons. Il a fait la volonté de Dieu au prix de beaucoup de fatigue, de faim, de soif, de terribles souffrances. Je pense que retenons ça quand même, parce que nous, quelquefois, on ne veut pas trop se fatiguer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quel bel exemple que celui du Seigneur Jésus. Alors qu'il est, bien sûr, vous le savez, dans le jardin de Gethsémané, dans une terrible lutte contre les puissances infernales, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient jusqu'à terre. Vous vous rendez compte? Quelle lutte terrible! Et quelle est sa prière? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans de telles circonstances, il a encore cette vision d'accomplir la volonté du Père parfaitement. En quelque sorte, il a toujours offert le sacrifice de sa volonté. Alors, il va finir son existence terrestre, bien sûr, sur une croix, où il prend notre place, se met au rang des pires malfaiteurs, au dernier rang de la société, et il terminera par ce cri, tout est accompli. Comme on dit, la loi était parfaitement vécue, la rédemption eut lieu, il s'est offert, la volonté du Père est accomplie à la perfection. À la perfection. Alors, pourrions, pendant quelques instants, parler de la volonté de Dieu pour nous. Pour nous. Oh, je ne serai pas complet, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais on peut voir quelques pensées. Toute la vie d'un enfant de Dieu devrait tendre et doit tendre à accomplir la volonté du Père, la volonté de Dieu. D'ailleurs, dans la prière modèle que le Seigneur nous a donnée, vous connaissez tout ça, la prière qu'il nous a enseignée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a des gens qui récitent cette prière en réalisant peu, sans réaliser qu'ils sont sur la terre et que par leurs paroles, ils confessent que la volonté de Dieu doit être faite dans leur vie. Alors, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déséquilibre. Il y a des gens, leur imagination aidant, ils croient voir dans tous les petits détails de leur vie un message divin. On les appelle des chrétiens circonstanciels. Bon, il s'agit d'être équilibré. Pour d'autres, ça se limite à une révélation particulière, seulement dans les grandes décisions de leur vie, seulement. Mais ils n'ont que faire de ce que dit la parole. Et pourtant, je vous donne un exemple. 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors bon, bien sûr, on ne peut pas passer outre cela. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Par contre, ils s'inquiètent quelquefois de la volonté de Dieu quand ils vont acheter une auto ou une maison. Bon, c'est pas évident. Alors certains, moi j'ai rencontré des gens, ils usaient de la toison de Gédéon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gédéon. Alors ça, aïe, pour un oui, pour un non. Alors la toison, il la mettait dehors, elle était mouillée, vous savez, Gédéon c'est ça, il avait mis la toison, elle était mouillée, puis tout le reste était sec, puis après il a remis la toison. La toison était sèche et il y avait la rosée sur toute la campagne, tout le terrain. Bon, alors certains usent et abusent de ces choses, ils veulent à tout prix que Dieu leur parle d'une manière ou d'une autre. Enfin, Gédéon, c'était quand même le plus petit dans la maison de son père. Il a eu un courage extraordinaire d'abord, après avoir rencontré l'ange de l'Éternel, c'est qu'il a abattu la statue de Baal. Il fallait le faire, parce que il y avait toute la congrégation autour de lui qui n'était pas d'accord avec ça. Alors là, l'idolâtrie. Est-ce qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans les églises aujourd'hui, même celles dites chrétiennes? Moi, je m'interroge. Dans un certain christianisme modernisé, il y a de l'idolâtrie. C'est une autre forme que celle d'Israël. Mais n'oublions pas que l'idolâtrie d'Israël leur a amené beaucoup de misère, de détresse. Ils sont même retrouvés en esclavage à Babylone à cause de leur idolâtrie. C'est pas rien, C'est pas rien l'idolâtrie. C'est pas quelque chose à évacuer comme ça facilement. N'oublions pas que l'ange de l'Éternel avait donné pour mission à Gédéon une mission d'envergure. Délivrer le peuple d'Israël de la domination des Madianites. C'était pas une mince affaire. On comprend quand même que Gédéon a eu quelques problèmes avec ça, qu'il a voulu vraiment une confirmation puissante. Alors les raisons utilisées par les chrétiens aujourd'hui ne correspondent pas en général à cette dimension d'engagement, ni cette dimension de mission. Alors vous le savez, Dieu parle. Ah oui, Dieu parle. Mais il ne parle pas toujours. Et même quand il parle, on ne le discerne pas toujours non plus. Vous connaissez Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Par contre, Dieu parle toujours par sa parole. Dieu parle toujours par sa parole. Elle est toujours là, à notre disposition. Il serait dommage de ne vouloir connaître la volonté de Dieu que pour des choses matérielles, temporelles, des choses qui passent, et de la mépriser, de ne pas en tenir compte pour notre vie spirituelle. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole. On ne va pas s'intéresser à la parole uniquement pour ce qu'on a envie de pratiquer. Dans ce cas, notre volonté vient interférer en quelque sorte avec la volonté divine. On va faire son marché dans la parole. C'est ce qui se passe souvent, malheureusement, de nos jours. C'est dommage. Dieu attend de nous que sa volonté, sa parole soit prioritaire dans nos vies, qu'elle fasse autorité. On peut remarquer ce que disait un homme comme un homme droit, on va dire comme Job. Que disait-il, Job 23? Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est merveilleux cette parole de Dieu. Et je pense que vous en avez fait l'expérience aussi quelquefois. Dans une lecture journalière, le Seigneur nous a parlé, nous a donné une direction personnelle. Hein, personnelle. La parole, elle ne parle pas que d'une manière générale, elle nous parle aussi. Et nous avons besoin, bien sûr, d'être conscients de cela. Certaines expériences, elles sont personnelles. Quand on les raconte, on se rend compte que même les chrétiens, ils ne comprennent pas toujours. Mais ça, c'est comme ça, c'est l'expérience personnelle. Et quand les autres racontent leurs expériences, nous, on ne comprend rien. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et oui, c'est ça, moi. C'est vrai que, moi, il y a quelques années, j'avais les cheveux d'une autre couleur. Je n'apprends rien. J'avais les cheveux d'une autre couleur. Et puis, dans une réunion, le Seigneur m'a parlé. Mais j'ai entendu une voix. Elle a résonné en moi. Je ne peux pas vous dire, vous expliquer comment c'est impressionnant d'amour, de puissance, de douceur, je ne sais pas comment le dire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est ta timidité? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ah, il ne s'agit pas seulement de chanter Jésus, je t'aime, hein, c'est facile ça. Il nous appartient aussi de le démontrer par nos actes concrets dans la vie courante. Or, la volonté de Dieu, c'était que j'élève la voix dans la grande assemblée. La volonté de Dieu, c'était que j'annonce la parole. Eh ben, c'était l'Everest pour moi. Je ne vous le cache pas. C'était l'Everest. Et à partir de ce jour-là, moi, je n'ai plus été le même. Quand j'ai reçu cette parole, je n'ai plus été le même. Les distractions mondaines n'ont plus eu aucune saveur pour moi. C'est mon expérience. Oui, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vrai qu'en principe, la volonté de Dieu ne nous pousse pas à faire des choses que notre chair apprécie beaucoup. Mais avec la force qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, on devient capable de mettre notre volonté au service du Seigneur. Quelqu'un a dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Ah, il n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, de discerner rapidement la volonté ou la pensée de Dieu. Quelquefois, ça demande du temps. Ah, il est vrai que le Seigneur est infiniment grand et nous sommes très petits dans cet univers. C'est Isaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Nous avons besoin de faire preuve quand même devant la volonté de Dieu de beaucoup d'humilité. Ce n'est qu'en prenant du temps, on le réalise, dans la communion du Seigneur, que la pensée de Dieu arrive à nous être révélée. Et le Seigneur va parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il va, bien sûr, nous parler, bien sûr. C'est vrai que dans les Actes des Apôtres, nous avons quand même de bons exemples de vie guidée par le Seigneur. Hein. Pierre, bien sûr, vous avez vu cette nappe, tout ça, ça l'a amené à considérer ceux qui n'étaient pas juifs d'une autre façon. Paul a fait aussi plein d'expériences. On voit, mais ces gens-là n'étaient pas toujours pleinement certains. On voit que à des moments, ils se posaient des questions. Il y a des gens qui sont sûrs de tout. Le Seigneur leur parle tous les jours, à tout moment. Non, non, non. Non, non. On a un exemple, c'est dans les actes des apôtres, et il nous appartient, bien sûr, de suivre ces choses, de les relire quelquefois et de réaliser comment ça se passe avec le Seigneur. Notre Père aime révéler sa pensée, par contre, à ses enfants, bien sûr. Nous remarquons qu'elle ne sera jamais d'ailleurs en contradiction avec sa parole. Le Seigneur peut nous parler par un don spirituel aussi, hein? Ça arrive. Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. À nous et à nos enfants. Ça nous rassure un peu parce que enfin, nos enfants s'inquiètent un peu pour eux quand même. Le Seigneur veut se révéler aussi à leur cœur. On prie pour ça aussi. On remarque que quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il n'a pas caché ce qu'il allait faire à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ah, il y a toujours des obstacles à la révélation de Dieu. Oh, bien sûr, nous avons toujours nos ennemis, bien sûr, qui essaient de nous embrouiller. Il y a notre chair qui ne nous aide pas en la matière. Hein. Ézéchiel 28, toi tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça vous est jamais arrivé? C'est pas toujours évident. Hein. On se rend compte quelquefois après qu'on s'est engagé, puis hop, on fait marche arrière, on dit Seigneur nous montre hein, que c'était pas tout à fait sa volonté. Alors pourquoi cette confusion? Ben c'est vrai que Galates 5,17 répond déjà d'une certaine manière, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ouais. La chair, c'est le corps, et l'âme sont l'esprit, sont les quatre volontés du vieux moi, c'est la fausse liberté. La vraie liberté étant, consiste à nous soumettre à la volonté de mon Dieu. À l'enfant de Dieu, vous savez bien sûr qu'il est appelé à déposer tous ses projets au pied du Seigneur. Je crois que c'est une bonne habitude, je pense que vous l'avez tous. Hein. Nous avons une exhortation de bon sens, d'ailleurs, dans Jacques 4, vous dites, nous irons, nous ferons, nous gagnerons. Vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. C'est une bonne façon de s'exprimer dans la vie courante. Hein. Quand on a projeté d'aller quelque part, enfin, si Dieu le veut, nous irons. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un autre obstacle, c'est le monde et son esprit. Ça, c'est un obstacle à discerner la volonté de Dieu. C'est la conformité au monde. Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'esprit du monde. Il se retire quand nous le laissons entrer. Romains 12, vous connaissez ce passage, ne vous conformez pas au siècle présent. En quelque sorte, ne vous laissez pas modeler, ne vous laissez pas modeler à son caractère. Et la pensée du texte, c'est profonde, c'est ne vous laissez pas modeler à son schéma, à son schéma. À son schéma de vie, c'est littéral ça. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, agréé et parfait. C'est vrai, quand on vit avec les mêmes buts, ce monde, les mêmes objectifs terrestres, quand on se divertit aux mêmes citernes crevassées, quand on passe du temps à regarder les mêmes programmes et à admirer les mêmes artistes, c'est imperceptiblement, notre intelligence et nos pensées se mettent à fonctionner selon le schéma de ce monde et l'esprit du monde, il entre par la fenêtre, je crois. Enfin, nous avons un autre ennemi, c'est l'adversaire. Il fait tout pour nous embrouiller, c'est vrai. Et ses desseins consisteront à nous détourner de Dieu et à nous emmener sur un chemin contraire à sa volonté. Cette technique, vous la connaissez, elle est vieille comme le monde. Dieu a-t-il réellement dit. Aujourd'hui, on assiste ça dans les milieux chrétiens, où on expurge, on enlève de la parole de Dieu plein de passages. Je ne sais pas ce qui va rester un jour, couverture peut-être. C'est terrible. On explique tout, tout expliqué différemment du passé. J'ai l'impression que ceux qui nous ont devancés, ça devait être des ânes, je ne sais pas. Quel malheur. Nous avons besoin de respecter ceux qui nous ont devancés et qui étaient des hommes fidèles au Seigneur. Alors résistons-lui avec une foi ferme, comme Jésus l'a fait avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La mission du Saint-Esprit, c'est nous conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est déjà, elle est personnifiée en Jésus-Christ, en celui qui a accompli toute la volonté de Dieu. Et notre mission à nous, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Je crois que nous avons besoin, c'est vrai, de communion avec le Seigneur, nous avons besoin de communion avec le Saint-Esprit, nous avons besoin de sensibilité spirituelle. Nous avons besoin, c'est vrai, d'une conscience pure, mais nous avons besoin de sensibilité spirituelle, afin que, je ne sais pas, quelquefois on peut entendre des choses, dire, ça c'est pas bon. Le Saint-Esprit, nous, on ne sait pas comment l'expliquer quelquefois, mais on dit, non, ça paraît pas bon. Et quelquefois, plus tard, on va comprendre pourquoi. Hein, ce sont des petites expériences que vous avez faites certainement, moi aussi j'ai faites. Et puis, on va aller quelque part, puis on sent qu'on n'est pas à notre place. Moi aussi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous faire ressentir ces choses, de nous conduire. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Bon, je vais bientôt terminer. Hein, parce que je ne voudrais pas vous lasser, mais quand on relit le « Revenir à Noël », on va commencer par Noël, on va revenir à Noël. On voit que Marie et Joseph ont accompli la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'ils comprenaient dans tout ça? Pas grand-chose, hein, certainement. Pas évident. Hein. Pas évident, mais Marie a pu dire « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle s'est soumise à la volonté de Dieu sans vraiment comprendre. Vraiment tout comprendre. Nous, on voudrait tout comprendre avant d'obéir quelquefois. Mais non. Je pense que qu'il faut d'abord obéir à la parole de Dieu, nous laisser conduire par le Seigneur, et il y a des choses qu'on comprend après. Que le Seigneur nous aide. Alors nous savons que Dieu n'attend pas de nous seulement un attendrissement religieux devant un bébé, comme certains le font dans une représentation plus ou moins erronée de la crèche. Jésus s'est offert pour nous. Il veut tout de nous. Il veut tout notre cœur. Il veut tout notre vie. Il veut que toute notre volonté soit au service de la sienne. Il veut que toute notre volonté soit au service de la sienne. Alors je termine par les paroles d'un chant. Et il y a un chant qui dit: que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient. Bon sauveur.